Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
تو نه مرهمی نه فریاد، تو نه خسته ای
نه. Coucou, c'est Douce.
Coucou, c'est Anthony. Et ceci est le dernier épisode de Kitimité. Mais de la saison 1, hein, vous inquiétez pas. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses. C'est grâce à vous qu'on continue, se remet en question, progresse et fait entendre toujours plus fort et plus loin toutes ces voix singulières.
Merci de tomber en extimité depuis ce 30 septembre 2018. Vos retours et critiques, vos mots doux et vos encouragements sont les moteurs de notre motivation. Et nous sommes ravis de vous annoncer qu'une saison 2 est prévue pour début septembre.
Pour fêter ça, on vous donne rendez-vous à une date très très importante. Le samedi 7 septembre 2019, aura lieu le festival Extimité à la Cité Fertile de midi à minuit. C'est au 14 avenue Édouard Vaillant à Pantin et c'est très bien desservi par le RER et le métro et c'est même un lieu entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Au programme, des cours de yoga à plusieurs niveaux, des ateliers de tricot, macramé, broderie, des projections de courts-métrages, des tables rondes sur la convergence des luttes et du burn-out militant, ainsi que des cours d'autodéfense féministe et de voguing, et enfin, des concerts. Cette journée sera l'occasion de mettre en avant les invités d'Extimité.
On a tellement hâte d'y être et de vous y voir. Et maintenant, on vous laisse avec l'invité du 21e épisode d'Extimité.
En fait, aujourd'hui, je m'identifie comme Gwyn, et c'est politique. C'est-à-dire que, pour moi, le fait d'être lesbienne n'est pas forcément politisé. Être plutôt dans le cadre d'être LGBT, juste vivre ta sexualité en tant que lesbienne. Et il y a pour moi être queen. Et être queen, c'est être. Moi je pense que c'est beaucoup. Enfin, c'est extrêmement politique parce que du coup, tu t'inscris dans un cadre militant, féministe. Et du coup, je traîne vraiment dans des milieux pareils en fait. Donc, avec des personnes queer, trans, racisées ou pas. Mais en tout cas, le fait de m'identifier comme queen, c'est aussi de considérer que je suis un ensemble de choses. Et que je suis à la fois meuf, queen, racisée.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Je m'appelle Aïcha, j'ai 29 ans, 30 ans dans le jour. Et je suis une meuf née à Tunis, je suis queen et je vis à Paris depuis 4 ans maintenant. En fait, je sais pas trop comment me présenter, au juste, parce que là, je dis ça un peu dans tous les sens, mais ça dépend des fois. Donc là, pour l'instant, je veux dire ça, et puis après...
Et quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ?
Ouais, je sais pas trop comment répondre à cette question, qu'est-ce que je vois dans le miroir. Je pense que ça a vraiment évolué au fil des années, et je pense que c'est que mon regard aujourd'hui, il est beaucoup plus cool envers moi-même qu'à un moment donné. Je pense que aujourd'hui, je m'accepte complètement comme en tant que personne queer qui a pas forcément aussi des un corps ou une expression plutôt normée. Plus jeune, j'ai quand même subi le fait que j'avais pas un corps qui ressemblait à tous les codes, c'est-à-dire plutôt fin, frêle, enfin ce qui est censé ressembler à une meuf. J'ai toujours été assez costaud et je pense qu'aujourd'hui, moi, j'adore mon corps. Le fait que j'ai des formes, je suis assez robuste et j'ai laissé pousser mes sourcils, ce qui est quelque chose sur laquelle j'avais été critiquée quand j'étais toute petite. Je pense que c'était mon premier traumatisme. J'étais en colo dans un truc en France à la Colmiane et les personnes, vous savez, qui s'occupent des gosses et tout ça m'avaient pris à part pour me dire regarde, elle ressemble à Emmanuel Chin. Moi déjà je connaissais pas Emmanuel Chin. Oui, le mec de Capital et tout. Et donc en fait moi j'avais pas compris, j'avais très mal pris, je suis partie pleurer et tout. Et puis c'est vraiment, ça fait peut-être un an que je me suis dit je vais arrêter d'enlever mes on appelle ça nakhla en tunisien, ça veut dire le palmier. Et donc, ouais, je l'ai laissé. Et puis, aujourd'hui, je m'accepte avec mon corps, mes poils, je ne fais plus. Voilà, tout ça. Donc, j'aime bien comment je suis.
Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance ?
Mon enfance. Je pense qu'elle a été vraiment cool. Donc j'ai grandi à Tunis, dans une famille qui m'a vraiment, je pense, laissé faire absolument presque tout ce que je voulais. C'est-à-dire, j'ai toujours été déjà, je pense, une enfant qui était extrêmement manuelle, qui aimait beaucoup faire des jeux extérieurs. J'adorais grimper, faire des collections de pierres, exploser des trucs, jouer au basket dehors. Et j'ai jamais eu une sorte de groupe de filles avec qui jouer. Donc je jouais principalement avec des garçons. Ouais, voilà, toujours à l'extérieur, j'adorais ça. Et je pense que du coup, même mes parents m'ont jamais considéré comme, entre guillemets, comme la fille qui devrait rester à la maison, ne devait pas traîner avec des gens dehors. Pas du tout. Je pense que j'ai eu cette liberté-là. J'ai peut-être même été avec, enfin, si on peut dire ça, un peu le garçon de la famille. C'est-à-dire que même parfois, mes sœurs, qui sont plus grandes que moi, si elles sortaient à la plage et que, ben, moi j'ai 5 ans d'avant, enfin, 2 mois, et qu'on me disait, ben, va vérifier, ben, checker si tes sœurs vont bien. Et... Donc j'avais vraiment ce rôle-là d'un peu de protectrice et ils savaient que j'étais un peu badass et me laissaient faire un peu tout le bordel que je voulais.
Et du coup, t'as grandi jusqu'à quel âge à Tunis ?
J'ai grandi jusqu'à 25 ans. J'ai été sédentaire pendant 25 ans. Donc là, depuis 4 ans, je bouge un peu partout depuis que je suis ici.
Comment tu t'entendais avec ton genre adolescente ?
Bon, genre et sexualité, parce que je pense que c'est très tôt, je me suis quand même rendu compte que déjà j'étais attirée par les meufs. Et je pense à l'âge de 16, 17 ans. Et puis ensuite, quand tu te rends compte de ça, tu te dis, ah, même à 8-9 ans, j'avais quand même des choses qui me perturbaient un peu. Mais je pense que j'ai à un moment donné... je pense que j'ai à un moment donné fantasmé sur le fait d'être un garçon. Assez jeune. Sans même me dire... Je comprenais même pas ce que ça voulait dire le genre ni quoi que ce soit. Mais je pense que tout ce que me renvoyait d'être une fille ne me correspondait pas. C'est-à-dire que ce soit à la fois dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler, dans les activités aussi. J'étais quelqu'un qui avait ça, donc, et toutes les expressions qui étaient assignées au genre masculin, que ce soit donc la force, le courage, l'aventure, c'est des choses auxquelles je m'identifiais. Donc j'avais beaucoup de personnages masculins, à partir vraiment de Indiana Jones à un peu moins James Bond quand même, parce que pas trop, mais vraiment il y avait vraiment des personnages, voilà, un peu forts, qui sont, enfin, aventuriers. Et puis surtout, c'est les seules choses que je connaissais, parce qu'on nous parlait jamais de meufs qui étaient aussi hyper fortes, qui faisaient des choses. Donc je pense que j'ai quand même à un moment donné j'imaginais avoir un torse, j'aimais bien porter des caleçons, et voilà, je me travestissais aussi assez jeune. J'aimais bien toute seule être en draking, je savais même pas que ça existait, le mot draking, hein. Mais je me mettais toujours des costards et même devant chez moi je me fais une petite barbe, et mais ça restait vraiment dans le cadre de voilà, un jeu. Et puis c'est vraiment et puis après, en fait, c'est avec le temps aussi que je me suis plutôt identifiée, enfin, comme meuf, en assumant que je suis, enfin, que j'étais du coup une meuf, mais qui ne correspondait pas aussi aux normes de ce que c'est être une meuf. Et mais après, je pense qu'aussi, là c'est aujourd'hui ce que je pense, et puis après je sais pas comment ça peut évoluer, voilà. Ma mère m'a habillée en cow-boy déjà quand j'avais 6 ou 7 ans et elle savait d'ailleurs, dans les déguisements, que je, toutes les soirées déguisées ou les anniversaires, j'allais sûrement pas être en costume de princesse. Donc ça, je pense que ils sont pas posés la question, c'est de comment je m'identifiais, ou si c'est une question de genre, mais plus, bah, en fait, elle est c'est son univers à elle. Elle est plutôt, c'était plutôt garçon manqué à l'époque, on disait. Et donc voilà, ils savaient très bien que c'est pas mon anniversaire, m'acheter une Barbie, c'était mort, c'était pas vraiment le truc. Donc voilà, c'était plus des jeux d'aventure, des livres avec vraiment comment résoudre l'énigme de je sais pas quoi, ou des outils, ou des trucs comme ça. Donc je pense qu'ils, voilà, ils se sont rendu compte assez tôt que c'était pas grec, j'avais pas vraiment une j'avais pas les codes, en fait, de ce que c'est être une fille, entre guillemets. Mais ils s'en foutaient, parce que j'étais comme j'étais, c'était cool aussi.
Et au-delà, ouais, de la sphère familiale, ouais, comment est-ce que c'était perçu ?
Ben, c'est drôle, parce que du coup, dès l'école primaire, donc j'avais forcément quelques copines, mais en fait, du coup, on faisait pas forcément la même chose, mais on j'étais quand même invitée à des anniversaires, des trucs. Et je me rappelle d'un moment, moi, qui a été un peu marquant dans ma, enfin, à propos de mon genre, etc. C'était un anniversaire de ma meilleure amie. Donc on était toutes, on n'avait que des filles, on était toutes chez elle. Et donc c'était une sorte de piscine partie, avec on mangeait des trucs, on jouait. Donc tout un passe tout après-midi, et du coup à faire que des jeux de l'extérieur, c'était génial. Et à un moment donné, donc on monte l'escalier, moi dans sa chambre, et donc toutes elles sont devant moi en avançant. Donc c'était l'idée, c'était de, je suppose, de jouer au Barbie, un truc comme ça, et ou d'autres choses. Et en fait elles avancent toutes, elles rentrent dans la pièce, et quand moi j'arrive, elles ferment la porte à clé. Alors moi j'avais pas compris, et donc je tape, finalement toi t'es pas comme nous, toi tu vas pas jouer avec nous. Alors qu'on avait passé l'après-midi à jouer ensemble, je comprenais pas. Alors moi, j'étais hyper vénère, j'éclatais en sanglots, et je me suis cassée la baraque. Alors, son père est venu me chercher dans la rue, parce que quand même, j'avais 9 ans, je crois, j'étais dehors, en train de partir. Enfin, dans ma tête, je vous emmerde toutes, c'est pas cool, vous me comprenez pas. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait une sorte de scission, et que j'étais différente. Vraiment, j'avais compris cette... Parce que pour moi, j'étais pas forcément différente, j'étais juste comme ça. Je m'habillais hyper en garçon manqué, je jouais tout le temps des trucs, voilà, avec des ballons, j'avais les pieds toujours... Enfin, les genoux toujours ouverts et gratinés parce que je tombais tout le temps. Mais c'est la première fois, je pense, que j'ai eu ce truc-là, de ce choc, de me dire, en fait, là, il y a une différence. Voilà. Et après, je pense que ça a continué aussi un peu... Je me suis rendu compte déjà que je m'entendais plus, du coup, avec les garçons. Et même qu'on jouait parfois genre taquiner les filles qui étaient plus grandes dans d'autres genre en CM2 et nous on était en CE1, donc on jouait moins ce jeu à les taquiner et tout, mais moi je me suis jamais posé la question de est-ce que c'est normal que je sois une fille dans un groupe de mecs, est-ce que tout, il y avait cette question de drague, mais quand t'es tout jeune de se dire ah, en fait elles m'intimident un peu, elles sont plus grandes, mais je savais que je ressentais la même chose, c'est-à-dire que je les trouvais belles, intimidantes, et que j'étais dans ce rapport de ah, on va faire les intéressants, c'est ça. Mais sans vraiment me poser ces questions genre ni quoi que ce soit, pour moi c'était voilà, j'étais comme ça. Et après forcément t'avais des moments de beaucoup plus de solitude au collège où ben forcément en fait à la récréation par exemple, je m'entendais pas forcément avec les meufs qui parlaient de commencer à parler de mecs, etc. Et en fait moi ça m'intéressait pas du tout, j'avais envie de jouer, tu vois, faire d'autres choses. Et de l'autre côté, je m'entendais, j'étais plus forcément non plus avec les mecs, parce que du coup aussi ils étaient ah mais en fait c'est une fille, c'est pas la même chose. Et puis donc dès qu'il y a eu comment savoir ce petit rapport un peu de genre de séduction, etc., ben en fait à la récré j'allais acheter du chocolat et je me posais dans les toilettes et je taguais les toilettes. Je faisais plein de dessins dans les toilettes et c'était mon moment de en fait ben j'arrive pas à trouver vraiment là où je dois être. Donc là c'était vraiment jusqu'au, je pense, ouais, au lycée, au collège à peu près, collège début de lycée. Mais c'est bizarre parce que je me suis jamais dit à un moment donné ah tiens je suis comme ça, ou c'est juste qu'à un moment donné j'avais une envie et un désir, et pour moi c'était normal en fait. C'était pas une question de me dire oh, merde, peut-être que je suis lesbienne. En fait c'était plus genre ah tiens, ok, c'est peut-être ça.
Trop cool.
Voilà, c'était vraiment, je pense, je l'ai pris vraiment de manière naturelle. Après bien sûr c'était compliqué parce que c'était pas forcément un truc dans les deux sens, donc forcément au début, enfin là t'as un crush pour quelqu'un, tu sais pas trop, c'est un peu trouble, et puis petit à petit en fait, j'avoue que la série The L Word a beaucoup aidé. Je me rappelle, en plus c'est venu vraiment en parallèle avec le moment où j'ai eu ma première copine. C'était à un moment donné, ben c'est ma tante qui m'a dit attends, il y a une série qui est cool, tu veux la regarder, sachant que avant j'avais quand même lu un peu Virginie Despentes, c'est toujours elle qui m'a passé le premier livre de Virginie Despentes, j'oublierai pas. Et en fait donc j'avais vu cette série là et par hasard, c'était pendant mon bac, il y avait une meuf qui venait passer son bac, qui était pas dans ma classe, et qui en sortant de la première épreuve nous dit à moi et ma meilleure pote ah j'ai envie de draguer, enfin j'ai envie d'inviter à dîner la personne qui encadre là, tu sais, qui surveille. Et là moi je me suis dit mais en fait c'est un garçon qui encadre, je savais pas trop. Et là j'ai compris qu'en fait elle était ouvertement win, et que c'était cool. Et puis on s'est un peu dragué, et puis je me dis ah, tiens je regarde la série. Ça c'est beaucoup de choses, et je pense que c'était pour moi évident là, c'était genre ah là c'est clair, c'est ça, voilà. Donc c'était à mes 16-17 ans.
Et du coup ça a été, est-ce que ça a été évident d'être en couple à Tunis à 16 ans avec une meuf? T'en parles de manière très très décomplexée, mmh, et très distanciée, peut-être, mmh, qu'à l'époque c'était pas du tout la même chose, mmh. À cette époque-là comment tu te sens, comment tu vis cette relation?
Oui, alors je pense que clairement c'était pas évident. Là je suis en train de raconter vraiment la chose plutôt de manière superficielle. Après dans le fond, je me rappelle, bon, par rapport à cette première meuf, la première fois qu'on s'est vu, clairement, enfin elle est venue me chercher en voiture et on s'est fait vite un bisou quelque part dans le noir dans la voiture, mais on pouvait clairement pas se tenir la main dans la rue ni quoi que ce soit. Mais ça c'est le cas aussi de même des couples hétéros, c'est-à-dire qu'il y a pas, je pense qu'il y a une forme de pudeur et qui fait que enfin les gens ne s'embrassent pas dans la rue, ne se tiennent pas la main dans la rue. Donc ça va, c'est pas forcément uniquement pour des couples gays de lesbiennes, c'est vraiment en général. Après forcément c'est extrêmement plus compliqué quand t'es gwyn. Je pense que il y a déjà une grande communauté. J'ai commencé en fait à connaître de plus en plus la communauté, une copine à une autre. Enfin, j'ai connu tout un groupe. Il y a des lieux où donc c'était la journée c'était des cafés, le soir c'était des bars. Où forcément, enfin, tu sais que ce lieu-là, il y a plein de personnes qui sont là-bas. Et après en fait, on est hyper inventive. Donc on trouve tous les moyens possibles, imaginables. Et puis aussi surtout, enfin, je pense par rapport aux parents, par rapport à la famille. Ou le fait qu'il y ait deux meufs, par exemple, en Tunisie, qui se tiennent la main, il y a beaucoup cette question de, en fait, c'est des potes, c'est des meilleurs amis. Donc, il y a, je pense que c'est le cas, pas forcément en Tunisie, je pense un peu partout, de quand t'as 17 ans et que tu ramènes ta meilleure amie, et que tu ramènes une deuxième meilleure amie, mais que ta mère ne voit plus la première meilleure amie, qui a disparu du jour au lendemain. Mais ça, c'est pas comme si tu ramenais un mec. Donc, il y a une question au début de facilité. De dire, bah, en fait, je peux ramener ma copine. On sait juste qu'on va rester dans ma chambre dans le silence pendant 2 heures. Donc, mais c'est plus facile à ce moment-là quand ça reste dans un cadre, je pense, privé. Ou aller chez des amis. Après, oui, à l'extérieur, je pense que c'est extrêmement compliqué. Moi, une des premières fois à 17 ans, quand j'avais retrouvé, du coup, cette copine, elle est descendue du train. Et, moi, avec toute ma spontanéité, on s'est pris dans les bras, on s'est embrassé. On a vu des gamins qui nous jetaient des pierres. Après, enfin, ça aurait pu passer, enfin, un peu partout dans le monde, c'est pas un truc typique en Tunisie. Donc voilà, je pense qu'il y a de la discrétion. Et puis aussi, je pense que quand t'es pas typé butch ou quand t'es pas pour un mec un peu efféminé, ben ça passe inaperçu dans la rue en fait. Alors moi, je m'identifie comme butch. Après, je pense que il y a plusieurs personnes qui s'identifient comme butch de manière différente. Donc pour moi, être butch, c'est déjà, il y a butch et femme. Femme, ça va être une gwyn qui va être vraiment, qui va avoir tous les codes de la féminité, mais qui est gwyn. Et butch, ça va être vraiment la gwyn qui va être, qui a plutôt des codes masculins, entre guillemets, identifiés masculins. Ça va aussi être quelqu'un qui va être plutôt dans le fait d'être plutôt entreprenante, qui va être un peu aussi dans des trucs très manuels. Il y a beaucoup de clichés, mais moi que j'aime bien, enfin c'est des clichés que j'aime bien de type la camionneuse ou celle qui a la caisse à outils, c'est celle de qui va quand t'as besoin de monter un meuble, ben tu vas appeler ta pote butch. Enfin, je pense qu'il y a vraiment plusieurs trucs qui définissent ce que c'est être butch. Moi c'est des choses que je définis au fur et à mesure. Et puis parfois c'est un peu aussi un mot qu'on a tendance à ou en tout cas une identité, enfin une qu'on a tendance à trouver has-been. Parce qu'on se dit que ouais, les butch, c'est les meufs à l'époque qui portaient des costards ou qui portaient de gros jeans et des gros suites et qui jouent au mec. Et en fait, non, je pense que c'est pas ça. Et même si c'est ça aussi, mais ça peut être différentes choses. Et moi, je trouve ça cool, les butch. Était proche de la famille de ma mère, tout simplement parce que la famille de ma père, je les voyais beaucoup moins, et aussi parce que je pense qu'on était dans des manières de voir les choses assez différentes. La famille de mon père est beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus religieuse. Ça veut pas dire qu'il y a des personnes cool, hein. C'est juste que du coup, quand j'allais là-bas, parfois, il y avait des choses où on avait des discussions qu'il n'y avait pas, etc. Mais j'ai beaucoup plus passé du temps aussi, donc j'ai grandi surtout avec la famille de ma mère. Qui est extrêmement ouverte, que ce soit mes tantes ou donc j'ai deux tantes, un oncle, mes cousins et cousines aussi, où on est vraiment potes en fait, au-delà du fait d'être de la même famille.
Et du coup, donc, en parlant de ta famille, est-ce que tu as fait ton coming out par rapport à... Même si le coming out n'est pas obligatoire, mais justement, dans, par rapport à leur ouverture, vu que ça coule un peu de source de ce que j'entends.
Alors, par rapport à ma famille, du coup, du côté de ma mère, il y a beaucoup de personnes qui le savent, que ce soit mes tantes, ma cousine, principalement, d'ailleurs, toutes les meufs de la famille le savent. Les meufs de la famille sont juste génialissimes. Et ensuite, donc par rapport à, je parle de ma famille nucléaire. Donc en gros, bon, je vous explique. Donc moi, j'ai grandi avec ma mère, mon père et mon petit frère. Et j'ai aussi deux demi-sœurs du côté de mon père. Je suis très proche et qui sont nés ici en France et qui vivent en France. Donc on se voyait tous les étés. Elles le savent aussi. Et depuis assez longtemps aussi. Et du coup, par rapport à ma famille nucléaire, donc avec laquelle j'ai vécu et donc qui ont pu voir des choses, je pense qu'il y a eu beaucoup de doutes à un moment donné. Et puis, j'ai fait mon coming out à ma mère. C'est un coming out. On a vraiment parlé ouvertement. Et puis, donc voilà, j'ai commencé à lui dire. Et alors, au début, c'était dur pour elle, extrêmement dur. Mais pour moi, c'était... Enfin, je pense qu'à un moment donné, il fallait que ce soit dit. Ça a été extrêmement dur, mais avec le temps, enfin, je pense que c'est la chose qui nous a vraiment rapprochés, ma mère et moi, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, on est devenus amis, au-delà d'être que ce soit ma mère. Et c'est fou parce que pendant un mois, je savais qu'elle était un peu perdue, etc., et on se parlait pas du tout. Et en fait, après, je pense, un mois et demi, elle est venue me voir pour me dire, écoute, pendant tous les jours, j'allais devant la mère, genre je pleurais tous les jours, et jusqu'à ce que petit à petit je me dise, mais en fait, pourquoi est-ce que je pleure? Qu'est-ce qui me dérange en fait? Et elle a commencé du coup à se poser des questions, à se dire, bon, il y a ma fille, la sexualité, comment la vit, son bonheur. Et je pense que de côté, il y a la société, la religion, ou ce que pensent les autres, etc. Et elle m'a dit, en fait, j'ai commencé à me dire, mais c'est complètement stupide de privilégier ça à ça. Et en fait, elle m'a dit, ça m'a permis moi-même, en fait, de me déconstruire sur pas mal de choses. Là, aujourd'hui, non seulement, enfin, elle accepte, elle est hyper cool, enfin, elle connaît ma copine très bien, avec qui je suis depuis 8 ans, et elle, enfin, elle vient à la maison et tout, voilà, connaît, voilà. Et aussi, ça, je pense que ça lui a permis vraiment le fait de se poser cette question-là. Je sais que dans sa vie, ça lui a permis aussi de remettre en question, et vraiment toute cette pression sociale qu'elle avait vécue et tout, et on en parle beaucoup depuis. Je pense que c'est vraiment, c'était hyper intéressant que ça se passe comme ça, mais c'était hyper dur aussi. Et pour mon père et mon frère, je pense qu'ils s'en doutent, mais il y a cette question de... Ils le savent, mais ils le savent pas, mais on n'en parle pas vraiment, même si... Enfin, ma sœur, la dernière fois, elle m'a dit, mais t'es sûre pas? Et c'est pas, parce que, clairement, sur ton compte Facebook, enfin, c'est évident, quoi, c'est pas... Je lui fais, en fait, c'est juste que je pense qu'il y a aussi une forme de pudeur. J'ai essayé parfois de, voilà, d'amener le sujet, mais je pense que si lui ne m'en parle pas concrètement, j'ai pas envie de parler de ma sexualité principalement avec mon père, donc... mais je pense qu'ils s'en doutent, donc, voilà... Un jour, il connaît aussi ma Fatma, donc elle vient à la maison et tout. Je pense que c'est un peu... Il sait qu'on vit ensemble, voilà, donc voilà, c'est un peu évident.
Tu faisais souvent des allers-retours, Tunis, France, tu es allée tous les étés en France, c'était quoi ton rapport avec la France?
En fait, moi, j'étais inscrite très tôt dans la mission française, dans l'école française, donc toute petite. Donc j'ai fait toute ma scolarité, entre guillemets, dans le système français, ce qui est un peu une bulle. Parce que du coup, t'as une vision de la France qui est particulière, qui est celle de soit des médias, TF1, France 2, Arte, ou du coup, celle des cours en fait qu'on te donne et des profs, etc. Mais du coup, je suis jamais allée en France, donc je connaissais pas la France à part ce que je, voilà, à part ça. Et ensuite, je suis allée, je pense, je suis allée deux fois voir mes sœurs. Je suis une fois voir mes sœurs, et puis et à part ça, non, j'avais donc après le lycée français, j'ai fait les Beaux-Arts à Tunis. Et puis je suis venue en résidence ici en 2014. Avant ça, j'étais venue deux fois en été. Oui, j'étais venue deux fois pendant 3 mois. Et c'était surtout pour voir du coup ma copine qui était là, qui était installée en France. Et là, je me suis dit, en fait, c'est trop bien. J'avais ce besoin, en fait. Je pense que pendant 3 mois, j'ai vécu aussi un peu le côté euphorique de l'image que j'avais de la France, qui est un peu aussi une image un peu... pas romantique, mais un peu aussi bourré de clichés de le Montmartre, les artistes, voilà, la vie de bohème, voilà, j'ai grandi aussi avec les chansons d'Aznavour et de Brel et de pas mal d'imaginaires, en fait, Amélie Poulain, tout ça. Donc, je pense que je me suis construit une petite image, voilà, un peu romantico, je sais pas quoi, artistique, mais vraiment, du coup, j'ai vraiment connu, enfin, Paris en particulier.
Du coup, qu'est-ce qui a changé
C'est
beaucoup de choses.
La désillusion ou pas? je ne sais pas si on peut parler de désillusion. Je pense que c'est une sorte d'histoire d'amour avec des grands hauts et des grands bas. Et c'est drôle parce que c'était par année. Donc la première année où je suis arrivée, déjà c'était super cool parce que j'étais prise pour une résidence. Donc j'étais à la Cité des Arts pendant un an. Donc j'avais une bourse, j'avais un atelier de plus de 50 mètres carrés avec vue sur Seine. Tout ça envoyé par la, enfin du coup par la Tunisie. Et donc j'arrivais et j'étais là, ok, trop bien. Non seulement, enfin je suis dans une ville où j'ai, enfin je suis enfin en France, j'avais vraiment envie d'être en France, de connaître Paris, surtout que j'avais un aperçu juste avant. Il y a mes sœurs qui sont ici, il y a le fait aussi de, il y a des bars de Queen, je peux rencontrer des gens, enfin je peux vivre aussi ouvertement, je peux tenir la main de ma copine dans la rue, enfin ça c'est vraiment la première année. Et du coup j'étais vraiment dans une sorte de, j'ai beaucoup flâné, je me suis beaucoup baladée, et donc c'était hyper cool. Et je pense que la deuxième année, du coup c'était l'année de me dire, ah en fait c'est un peu plus complexe que ça. Donc c'est un peu l'année de la désillusion, on va dire qu'en fait, je suis pas française, je suis une personne étrangère, et c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout quand tu parles d'autres personnes qui sont là depuis longtemps, et à quel point c'est compliqué pour eux aussi. Donc la deuxième année, c'était galérer pour chercher un taf. Enfin, du coup, j'étais plus en résidence, il me fallait survivre. Il y a le fait de vivre, de survivre, d'enchaîner plein de boulot, 36 heures du mat et babysitting, je sais pas quoi. Je me suis aussi inscrite à un master. Donc, et c'était surtout, je me suis rendu compte, peut-être parce que c'est une capitale, que tout allait très vite, que tout était hyper organisé, tout était hyper quadrillé, et que ça changeait un peu d'une façon de vivre en Tunisie, qui moi m'allait énormément, même mon rapport aux gens aussi. Les gens sont plutôt très organisés, dire on se voit tel jour, on prévoit ça 3 semaines à l'avance. Moi je prévois le jour même, je peux pas prévoir 3 semaines à l'avance ce que je vais faire. Et donc je pense qu'il y avait un petit choc, peut-être culturel. Propre, je pense aussi, à une capitale, mais surtout à Paris et tout ça, qui m'a un peu, déstabilisée. Et puis, c'est parti comme ça par chaque année. La troisième année, j'ai re-eu un coup de cœur. Je me suis vraiment plongée dedans et c'était toujours aussi difficile, mais le fait de prendre conscience de pas mal de choses, c'est venu par le fait que, j'étais dans des milieux de plus en plus militants, queer, enfin, militants, féministes. Et du coup, j'ai commencé à comprendre pourquoi il y a des choses qui me dérangeaient, pourquoi il y a des choses qui me mettaient mal à l'aise, pourquoi c'était compliqué. Et je pense que le fait de comprendre ça, ça donne des outils. Du coup, t'as envie de te battre, en fait. T'as pas envie d'être résigné ou de te dire c'est compliqué de rester dans ton lit, en fait, pas du tout. Donc je pense que le fait d'être confronté au racisme, le fait d'être confronté aussi au sexisme et à l'homophobie, parce que ce qui est drôle, c'est que je me disais en venant en France, j'allais pas forcément, on allait pas me faire chier en tant que gouine ou en tant que meuf dans la rue, alors qu'en fait pas du tout, c'est constant. J'ai reçu pas mal de violences, de remarques, et en fait je me disais en fait non, c'est un truc qui existe partout. Et là en fait, en plus de ça, autant en Tunisie j'avais le fait que je suis un peu, je suis dans la sécurité de savoir où je suis, d'être dans l'endroit où j'ai vécu, donc c'est beaucoup plus pratique. Mais là, tu es dans une ville que tu connais pas, tu es une personne étrangère, et tu commences à voir toutes ces choses-là. Tu es gouine, racisée, tout ça, tu commences à le voir. Mais moi, j'avais pas les mots pour le comprendre. Donc, j'ai commencé à le voir dans le cadre du travail. Dès que j'ai, Aïcha, j'ai le droit à la chanson de Cheb Khaled toutes les 12 minutes. Au début, je me disais, bon, c'est mignon, tu vois. Mais en fait, quand c'est, 50 fois dans la semaine, tu te dis, en fait, là, ça commence à me peser, tu vois. Alors que, la meuf qui s'appelle Marie, on va pas lui chanter du Johnny Hallyday tout le temps, tu vois. Voilà. Et donc, je me rendais pas compte que c'était du racisme. Je me disais, c'est juste que, peut-être que moi, je me disais plus privilégiée que d'autres, parce que, par exemple, je maîtrise la langue, alors qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je comprends le français, je maîtrise le français, mais par contre, le parisien, pas vraiment. Et que j'avais des choses que je comprenais pas. Parfois, quand je travaillais, ils faisaient des blagues, je comprenais pas. Et donc, j'ai commencé à comprendre toutes ces choses-là, en fait, de me dire, ok, là, je subis ça, autant en tant qu'étrangère, en tant que queen, en tant que personne racisée. Et quand tu lis tout ça, et que t'as les outils de plus en plus, je voyais que j'étais pas la seule, en fait. Et le fait de voir qu'il y a plusieurs personnes que moi, j'ai d'autres privilèges par rapport à d'autres non, moins, plus, mais que chacun et chacune a vraiment des vécus hyper complexes en étant, en étant ce qu'on est ici. Du coup, moi, ça m'a au contraire donné beaucoup de force. Et je parle vraiment là, les 2 dernières années, principalement la dernière année. Et au contraire, t'as envie de créer des solidarités, t'as envie de réfléchir, t'as envie d'aider des personnes, t'as envie de te renseigner. Et surtout, le fait de te dire, je vais me battre parce que là, aujourd'hui, là je me sens chez moi ici. Et c'est compliqué de se dire que bah en fait je me sens chez moi, mais à tout moment on peut me dire qu'en fait bah en fait t'es pas vraiment chez toi parce que là tu as t'as pas de papiers, ou alors on va te renouveler les papiers.
Et justement, je fais le lien avec donc ton statut d'étrangère et le fait que tu sois artiste. Est-ce que tu as pu avoir un statut justement de, d'artiste? Parce que je sais que quand tu fais quelque chose pour la France, tu rayonnes à l'international ou même nationalement, tu peux avoir des papiers un peu plus longs, sur une longue durée. Est-ce que toi, tu peux postuler pour ça?
Alors moi, j'ai pas postulé pour ça parce que moi, du coup, j'ai suivi plutôt un cursus de j'ai repris les études. Donc j'avais fait un master avec ça, donc j'avais un statut étudiant. Et après, en fait, de basculer d'un statut à l'autre, c'est extrêmement complexe. Et puis aussi, à part le rayonnement de la France, il y a aussi le fait, le financement de la France. Et le fait que, bah, en fait, en tant qu'artiste, j'ai pas toujours eu des trucs, des revenus réguliers. C'est-à-dire, j'avais des, bon, j'ai ma galerie à Tunis, avec qui j'ai fait pas mal de foires, enfin, ici en France, des expos, etc. Que ça, Marseille, Londres, Bruxelles, donc j'ai vraiment exposé, etc. Et j'ai vendu, mais pas, pas de manière régulière, alors qu'il faut vraiment, je pense que, bah, du coup, quand t'es artiste étranger, il faut vraiment que t'aies un truc assez fixe, ou en tout cas, un revenu assez, solide. Donc, j'avais toujours des choses en parallèle, voilà. Donc, non, j'ai pas un statut, d'artiste.
Et en parlant de statut d'artiste, comment est-ce que ça a été perçu, cette vocation, par tes proches?
Comme une évidence, je pense, parce que j'ai commencé très tôt à dessiner sur les murs de la maison. Voilà. Et je pense que, au bout de quelques nettoyages, on s'est rendu compte qu'il fallait acheter des papiers et des photos. Voilà. J'ai commencé à dessiner très tôt. C'était vraiment, enfin, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Mon père faisait de la peinture avant. Et je pense que, enfin, du coup, il avait du coup une toute autre éducation et une toute autre, toute autre génération aussi. Et son père lui avait interdit de faire les beaux-arts. Et je pense que, je suis plus tard, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui l'a marqué. Et du coup, je pense que quand il a vu que je fais du dessin, c'était directement de m'encourager. D'ailleurs, c'est une des personnes qui est le plus dure avec ce que je fais. Et qui n'est pas en mode de, ah, c'est cool et tout. Enfin, parfois, elle me dit, ah, là, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, là, c'est plutôt comme ça. Mais je pense que, mais tout ça avec beaucoup d'encouragement. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, vraiment, quand j'ai dit que je voulais faire les beaux-arts, j'ai eu aucun doute, tu fais ce que tu veux. Même si derrière, bah, je savais très bien que tu peux galérer, c'est pas évident. Je sais qu'il y a aussi cette volonté de me dire, hein, mais tu es sûr, tu veux pas faire un doctorat et enseigner, comme ça tu es sûr que tu as de... Et en fait, en vrai, je me débrouille, donc ça va.
Et qu'est-ce que tu fais en tant qu'artiste, justement?
Depuis très longtemps, d'ailleurs, je pense que mon outil principal, c'est le dessin. Je suis amoureuse du dessin, toutes les formes. Je parlais vraiment, là, récemment, de ce que je fais, donc j'ai souvent, du coup, repris le travail sur les murs. C'était la lubie d'enfance. Donc pendant quelques temps, j'ai pas mal fait de fresques ou d'installations. Donc je me déplaçais dans des expositions. L'idée, c'était vraiment de réinventer l'espace ou le lieu. Donc de créer un imaginaire autour de... J'arrivais, je voyais un espace et je le transformais en autre chose. Il y avait une exposition à Londres d'artistes tunisiennes dans l'ambassade. Et du coup, moi, l'idée, j'étais venue avec mes feutres. J'ai pris des feutres rouges. Et parce qu'on m'avait dit que le sol était rouge, enfin des tapis rouges, et on voulait les enlever, donc moi je me suis dit non, vous gardez. Et du coup, j'ai fait toute une installation où t'avais tout un dessin qui allait vers les escaliers, les murs, les poteaux, enfin tous les piliers. Et j'avais appelé Garden Rella. Donc le jour où on est arrivé, même les lampes qui étaient rouges, t'avais l'impression que dans le hall, t'étais vraiment à l'intérieur de quelque chose, voilà. Et il y avait une seule personne qui avait capté sur internet, c'était Garden Rella vaginalis. Et c'est une bactérie en fait qui infecte l'utérus. Et l'idée, c'est que c'était vraiment que de voir toutes ces personnes très bien habillées qui venaient à l'intérieur d'un utérus infecté.
Sur des sièges abîmés, y a ni désert ni forêt. Quelques rêves ceinturés par des rails à circuit fermé. Comment ouvrir les paupières des passagers quand le réel est crevé? Quand les yeux sont habitués, posés sur des sièges abîmés. Soutenez-moi.
je travaille surtout sur le concept que, enfin, que j'appelle l'anti-savoir. Donc l'idée, c'est de vraiment de partir de supports qui sont censés représenter le savoir, par exemple des cahiers d'écoliers ou le support du rouleau. Et l'idée, c'est d'aller de créer des dessins ou des fictions pour déconstruire en fait le grand savoir avec un grand S, c'est-à-dire toutes les choses qu'on nous aurait appris de l'école primaire jusqu'au lycée. Et je pense qu'on nous a pas appris les bonnes choses, ou en tout cas on nous a appris des choses erronées. Donc moi dans ma vie, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'ai commencé à casser des choses en me disant, mais en fait c'est pas comme ça, c'est pas comme ci. Et donc l'idée vraiment, c'est d'aller, moi j'ai dit ça, dépecer le savoir, donc autant dans la forme, c'est-à-dire ouvrir les cahiers, charcuter, etc., autant dans les corps que je représente, des corps à la fois cyborg et queer. Ça très tôt d'ailleurs, avant même je pense de m'identifier comme queer, j'ai toujours dessiné des corps qui n'étaient absolument pas genrés, ni masculins ni féminins, mais vraiment un mélange entre même limite animal, humain, cyborg. C'est toujours été je pense que j'ai dans le dessin, j'ai exprimé très tôt mon genre avant même de le savoir moi-même, je pense depuis assez jeune.
Et est-ce que tu articules cet éveil militant avec ton art?
Complètement. Je pense que justement, moi, je vois les choses. Je pense que j'ai jamais eu une notion, une vision très binaire, enfin binaire, tout simplement. Et ça, c'était avant d'avoir même les mots, je pense. Que j'ai toujours considéré le corps, déjà mon corps, et puis le corps des autres, comme un ensemble d'agencements qui ont plein de références, au contraire. Et qui peut être voilà, à la fois robot, à la fois cyborg, à la fois animal. Et voilà, masculin, féminin, c'est des choses pour moi qui s'imbriquent, c'est vraiment pas des choses voilà, qui sont opposées. Et donc je pense que très tôt, moi-même, je me suis vue comme ça. J'ai de plus en plus aussi, ça s'est passé du coup beaucoup avec l'acceptation de mon corps, mais je me suis toujours vue aussi comme animal. Et c'est des trucs, là je parle du coup de moi, mais ça se répercute aussi dans mon travail. J'ai toujours eu des comportements qui me rapprochaient l'animal. J'ai toujours aimé manger avec les mains, grimper dans les arbres, m'écorcher, enfin tomber, parler à demi-mot des choses, même des aboiements. Et je pense que ça, en fait, au début, c'était plutôt pour jouer quand j'étais jeune, mais en fait, aujourd'hui, de plus en plus, moi, je me vois comme un ensemble de beaucoup de choses. Et j'aime bien m'identifier aussi comme animal dans certaines positions, dans certains gestes. Et donc je pense que voilà, dans le dessin, dans le travail que je fais, c'est principalement lié au corps, mais après les formes que ça peut prendre, c'est pas forcément une représentativité humaine. Peut vraiment être un ensemble de choses, parce que je considère que ce soit animal, minéral, mécanique, tout, moi je vois les choses comme un enchevêtrement de choses vraiment qui se pénètrent et qui se développent les unes dans les autres, avec les autres. Je vois un peu les choses comme un réseau, en fait, continu. Donc là, en fait, si tu veux, dans le dessin, c'est vraiment un truc que je travaille autour d'une fiction, de plus en plus autour de la fiction. C'est-à-dire que ben, j'imagine des utopies, ou plutôt des dystopies, où justement il y aurait des blancs, ben, là sur quoi je travaille, des civilisations qu'on aurait retrouvées, dont on aurait retrouvé des traces, et qui auraient justement des connaissances et des expressions de genre, de corps qui ne correspondent pas du tout, en fait, à ce qu'on nous aurait appris. Parce que je pense que ça, c'est des choses tellement enracinées que quand tu commences à enlever une couche, tu te dis en fait non, il y a encore des couches et des couches. Et je pense que c'est un travail extrêmement satisfaisant de gratter toutes ces couches au lieu d'en mettre encore plus. Donc moi, c'est un peu le travail de fiction que je fais, de l'anti-encyclopédie. C'est l'idée vraiment de me foutre un peu de ces grands ouvrages où on représente, voilà, c'est ça un corps, c'est ça un savoir, c'est ça... les choses à nous inculquer absolument et à respecter. Et moi, l'idée, c'est de reprendre donc ces codes, ces mêmes codes, que ce soit des formules mathématiques, des significations des parchemins, et de retourner ça en donnant à voir en fait absolument autre chose, voire des vides, c'est-à-dire même trois petits points, c'est-à-dire il n'y a pas d'explication, ou alors des langages qui empruntent à plusieurs écritures, mais qui ne renvoient absolument à rien. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand on voit mon travail, là récemment, ma dernière exposition, on m'a souvent posé la question ça veut dire quoi en arabe? Et en fait, c'est même pas de l'arabe, en fait, c'est pas du tout, mais on a tendance forcément à dire que j'écris en arabe, mais en fait, c'est des automatismes avec ma main qui empruntent à tout et n'importe quoi, mais ça n'a absolument aucune signification. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est Mais c'est-à-dire qu'en fait, ton œil va à des automatismes, il va directement reconnaître, ah, ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais l'idée, c'est de juste de tout mélanger et que tu te, que justement ton regard se perd un peu dans tout ça et que tu de, et que c'est à, du coup, c'est au regardeur ou la personne, enfin, la personne qui regarde de faire des agencements elle-même, en fait, et de réimaginer différents corps, différentes interactions, différents mélanges.
En quoi est-ce que ton travail artistique s'articule avec ton travail militant et ta réflexion militante?
Alors, ça peut prendre, je pense que ça peut prendre différentes voies, parce que d'un côté, il y a le fait que je réfléchis de plus en plus aussi mon travail de manière collective. J'ai toujours travaillé seul, dans mon atelier ou ailleurs, mais vraiment travaillé seul, uniquement moi avec mon objet. Et je pense que le fait d'avoir une réflexion féministe militante, queer, etc., je me dis qu'en fait, on peut aussi créer ensemble plein mal de choses. Donc moi, ça m'a permis aussi de me décentrer, vraiment de ce truc de l'ego, de moi, et de me dire, en fait, il y a des personnes avec qui j'aimerais bien, je pourrais bosser, on pourrait faire des choses ensemble, qu'il y a vraiment ce côté-là de créer des mondes ou des choses à plusieurs. Et après, dans ma recherche, dans mon travail, je pense qu'il y avait des choses qui étaient là, un peu éparses, sur le genre, le corps, le rapport aussi au sadomasochisme, sur lesquels je travaille depuis très jeune déjà. Et en fait, je pense que tout ça, c'est comme si le militantisme, enfin le fait d'avoir vraiment une conscience féministe, etc., s'articulait beaucoup plus et me donnait me permettait d'approfondir certaines choses. Et donc, d'aller de plus en plus dans des, comme je l'ai dit, dans des projets vraiment de fiction féministe, et de lier aussi beaucoup ça, du coup, comme ce que je disais tout à l'heure, par rapport au genre, à la race, etc., et de jouer de tous ces codes-là. Donc je pense que c'est le fait de mon expérience vécue ici, de cette rencontre avec le militantisme, le fait d'avoir vraiment une conscience politique, j'ai vraiment, articulé tout ça dans quelque chose pour moi qui va vers un truc beaucoup plus construit, beaucoup plus, et beaucoup plus politique, je pense. Même si je pense que mon travail est politique, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai les mots pour mieux le comprendre, pour mieux l'appréhender.
Et justement, en parlant donc de l'art en tant que politique, quelle est l'expérience que tu as tirée en tant que femme artiste et femme artiste tunisienne?
Qu'est-ce que j'en tire? Je pense que déjà le fait, comme tu as dit, d'être femme arabe, femme tunisienne, artiste, il y a déjà quelque chose déjà dans la phrase d'exotisant par rapport aux autres, dans le sens où je pense que quand il y a des expositions, des choses qui sont assez ciblées, par exemple une foire d'art contemporain africain, en fait le fait d'être la femme arabe artiste est donc forcément entre guillemets ouvert d'esprit, je parle vraiment du coup du point de vue occidental et européen, il y a cette une forme de semi-fascination, exotisation, où en fait elle est complètement pas dans les normes de ce qu'on attendrait d'une femme arabe, et enfin c'est cool d'être une femme arabe ouverte, etc. Et moi j'ai entendu pas mal de choses comme ça qui m'ont même un peu dérangée, parce que pour moi c'était c'est justement ça tombait, plus du coup j'avais une réflexion politique sur la chose, plus je me rendais compte qu'il y avait des choses assez problématiques dans la fétichisation en fait de ce travail là de se dire automatiquement si elle représente telle chose ou des corps ouverts, c'est que automatiquement, donc du coup c'est une personne qui casse les codes de la religion, de je sais pas quoi, de la fermeture d'esprit de ces pays d'Afrique du Nord. Et en fait, c'est drôle parce que dans le discours, les gens vont pas le dire comme ça. Ils vont au contraire vraiment, il y a des gens qui sont hyper intéressés par ton travail, qui vont te poser des questions. Mais tu sens que derrière, il y a quand même un prisme, en fait, qui est tout le temps là. Tu vois, de te dire, mais de toute façon, quoi que tu fasses, c'est cool parce que de toute façon, t'es une femme racisée. Là, je parle vraiment dans des sphères vraiment d'art contemporain, etc. Et après, quand t'entends des choses, et parfois les personnes disent des choses et tu te dis, en fait, il y a des choses tellement évidentes. Je te raconte une anecdote comme ça, parce que moi ça m'avait vraiment choquée. On était invité donc j'étais à une foire à Bruxelles, et du coup on était invité par une des personnes qui avait acheté mon travail, celui d'une autre artiste, donc c'est un collectionneur, Et il avait invité en off de la foire pour voir l'installation qu'il avait fait chez lui. Il a invité plein de personnes pour voir un peu une sorte d'expo off de sa collection. Et donc, il y avait, on était tout le monde était là, moi j'étais un peu loin, et il présentait tous les artistes, tel artiste chinois, tel artiste, etc. Et à un moment donné, il parle du coup de mon amie, qui est aussi une artiste tunisienne, qui l'avait acheté le travail, et qui il disait une phrase du genre, et là, en fait, cette artiste est tunisienne, d'ailleurs, elle a une galerie à Tunis, mais on a envie de se dire, mais qui ouvrirait une galerie à Tunis? Et en fait, je regarde comme ça de loin, alors déjà, il parlait avec des couples, je me dis, mais en fait, c'est pas possible. Alors, déjà, bon, elle représente bien sûr aussi tout le stéréotype du mec blanc riche hétéro, voilà, qui a sa collection et qui achète ses artistes racisés. Et donc, en fait, je me dis, mais en fait, c'est tellement présent que tu vas pas te changer complètement de mentalité, sauf que tu prends conscience très vite du regard néocolonialiste, néo-orientaliste, c'est tellement évident. Et typiquement aussi, ben, des fois aussi, on me disait, par rapport à la galerie, on était plusieurs artistes à faire du dessin, par hasard. Et comme c'était une expo, enfin une foire d'art contemporain africain, il y a pas mal de personnes qui disaient, mais en fait, c'est pas africaine. Et en fait, on disait, mais en fait, on est galerie tunisienne. Non, mais en fait, mais du coup, il n'y a pas de représentation de personnes noires, il n'y a pas de... Et en fait, j'ai très vite compris qu'il y avait, toute la foire, une forme d'exotisation, et que il y avait certains artistes aussi qui jouaient ce jeu-là, de dire, bah, en fait, on va représenter principalement des couleurs, des codes couleurs de... rouge, vert, jaune, enfin, par exemple, j'ai jamais vu autant de bananes en une journée, tu vois, enfin, mais, même si c'est des codes réappropriés, mais en fait, je pense qu'il y a aussi le fait que le public, blanc, attends, européen, ça. Attend mmh, aussi bien. de ces corps noirs et queer, et en même temps, dans cette réflexion de se dire, eh ben, en fait, c'est le renouveau de l'Afrique, c'est des trucs comme ça, moi, qui m'ont vraiment posé pas mal de questions. Je pense que je peux pas dissocier le fait d'être femme et artiste et de racisée. Je pense que tout ça est vraiment lié. Ça fait vraiment un mélange de vraiment beaucoup de choses qui font que, à un moment donné, tu sais pas sur quel pied danser. Tu vois. J'ai même une fois, on pensait que j'allais dans une foire où j'étais, j'exposais. Et on est parti juste, je raconte comme ça parce que vraiment c'est des trucs qui m'ont marqué. Pour moi, c'est, on était parti regarder une exposition dans la galerie d'à côté. Donc moi, j'avais mon badge, on avait les deux, avec ma copine avait son badge aussi. On parlait, je pense qu'on s'est échangé deux mots en arabe sur une œuvre, et à un moment donné il y avait une petite pièce, il y avait une autre œuvre seule, donc on rentre, bien sûr on n'était pas en costume, enfin en robe, on était en jean, t-shirt, tu vois, avec les badges, et on rentre, et là t'as la meuf de la galerie qui vient directement derrière nous et qui vérifie son sac, et là on la broie du regard en mode, mais en fait, et c'était racisme évident, tu vois, de classisme, je sais pas, et en fait t'as, voilà, pas mal de choses comme ça. Moi, directement, par exemple, en tant que femme, racisée, on va parler directement de sexualité, de la liberté, de ton corps. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on va pas poser aussi à un mec racisé, mais qu'on va plutôt poser à une meuf. Voilà, toujours ce rapport au sexe et au corps directement. Alors que le mec, on va plus lui dire, en fait, tu penses quoi plutôt sur des points de vue politiques, sur le point de vue de migrants, etc. Enfin, voilà.
Comment tu t'entends avec le marché de l'art?
Du coup, en fait, moi j'ai. Si tu veux, donc moi j'ai ma galerie qui est à Tunis, depuis des années. Et donc, généralement, les fois où je vais vraiment vendre dans le marché de l'art, ça va être vraiment dans des foires d'art contemporain. Donc, 1.54, AK Art Fair, Art Bruxelles, voilà, donc ce genre de foires-là. Et du coup, je pense que c'est pas la même chose que. Par exemple, je connais pas le marché de l'art en France. Tu vois, pas particulièrement à Paris, à part AK. Mais dans ces foires-là, c'est des gens qui viennent un peu du monde entier, donc tu t'arrives pas exactement à définir. Après aussi, j'ai aussi des personnes qui collectionnent mon travail et que je connais. Du coup, je sais à peu près telle personne collectionne telle chose. Je pense que c'est hyper important aussi de se dire, est-ce que la personne qui va acheter mon travail, elle suit vraiment, ou alors vraiment c'est une sorte de voilà, je vais acheter telle chose parce que ça représente telle chose. Et moi je suis trop contente parce que du coup la dernière fois, je l'avais dit, c'était deux meufs racisées en plus qui ont acheté mon travail, une artiste, enfin une collectionneuse saoudienne et une collectionneuse marocaine. Et voilà, après voilà, je suis pas vraiment complètement dans le, je connais pas exactement comment fonctionne le marché de l'art, et j'ai beaucoup de mal avec le mot marché déjà, et voilà, donc moi ça me fait aussi poser des questions de c'est quoi mon rapport à mon travail quand je vends par exemple à un prix dans une foire d'art contemporain, et que pour certaines personnes c'est évident d'acheter à ce prix-là, parce que je suis clairement partie des prix les moins chers d'une foire, quand tu vois d'autres œuvres à 80 000 euros, bon, vraiment beaucoup plus. Et en même temps, quand j'expose dans d'autres milieux, dans d'autres choses, à quel moment est-ce que c'est toi qui décides de ta cote ou pas? À quel moment est-ce que tu peux changer les prix? À quel moment tu peux faire juste du troc, parce que moi j'aime bien faire le troc. Enfin, tout ça, c'est des questions que je me pose, mais je pense qu'il faudrait que je me renseigne aussi un peu plus par rapport à où, comment vendre. Est-ce que je veux faire partie du marché ou pas? Est-ce que tu choisis ça ou pas? S'il y a quelqu'un qui revend ton œuvre à beaucoup plus cher, est-ce que c'est un lien avec ce que tu fais maintenant ou pas? Tout ça, c'est pas mal de questionnements. Et je pense qu'il faudrait que je m'y réfléchisse vraiment. J'avoue que j'ai pas vraiment pris le temps de me poser toutes ces questions. C'est encore un peu flou. Comment vendre? Il y a aussi des personnes qui vont venir chez moi dans mon atelier m'acheter parce qu'ils ont vu mon travail à une foire. Et voilà. Donc je sais qu'il y a un peu de tout, un peu de foire, un peu de personnes qui connaissent mon travail. Et voilà. C'est un peu ce que.
Est-ce que toi tu collectionnes de l'art?
Alors déjà, pour acheter des artistes qui sont assez chers, j'ai pas les moyens, typiquement. Mais là, en ce moment... ma copine, on achète des œuvres d'artistes féministes et queer, des reproductions, du coup, des sérigraphies et tout. Enfin, du coup, des œuvres qui coûteraient entre 20 et 30 euros. Mais je commence à collectionner un tout petit peu, mais en tout cas des artistes ou des photographies aussi, un peu plus cher. J'ai commencé avec une pote et puis après on m'a offert une œuvre d'une artiste dont j'adore les dessins. Et puis après j'ai acheté une autre pote. Du coup là je commence dans l'espace à avoir pas mal d'œuvres de personnes, d'artistes que j'aime bien. Mais voilà, c'est des reproductions et ça, c'est un truc plutôt que je peux me permettre.
Coragem nunca pode se animar ao fim. Força de vontade é tão grande que a senti voz para a mão de alguém que desprezado. Tudo a fazer parte nos vida. Coragem nunca pode se animar ao fim. Força de vontade é tão grande.
Est-ce qu'il y a un monde artistique alternatif à Paris, qui est concret? Parce qu'en fait, il y a souvent ces trucs-là, underground.
Après, il n'y a pas. Enfin, le problème de l'underground, c'est dire underground, c'est très mainstream, c'est il y a des mondes alternatifs.
C'est justement, c'est.
Mais bon.
Ouais. Non, mais c'est vrai que tu me dis ça, parce que moi, je sais pas. C'est un particulier, un milieu artistique underground. Je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui font pas mal de choses hyper cool, que j'aime beaucoup et que je suis, qui vont exposer, enfin qui font une résidence, enfin quelque part, et qui font après un projet plutôt, enfin assez cool. Et ensuite il y a aussi des cadres, enfin dans les milieux queer où il y a des expositions, des projets de festivals, etc. Donc je sais pas s'il y a un ou plusieurs milieux, mais je pense qu'il y a plutôt des groupes de personnes que j'aime bien ou des personnes, et qu'il y a de plus en plus aussi de réseaux solidaires. Mais c'est aussi complexe parce que c'est aussi des personnes qui n'ont pas aussi forcément des moyens, et donc derrière en fait il y a pas de le marché de l'art, ça il y a pas un lien en fait, ou encore un petit marché qui pourrait généralement, par exemple, des infers ou des faits de vente de dessins de sérigraphie, de reproduction, etc. Mais ça reste pas viable pour les artistes dans la plupart des cas. Ben, de plus en plus, moi en tout cas, je suis je vais encore vers de plus en plus vers ça, c'est à dire que je cherche aussi des projets qui m'intéressent vraiment. Parce que typiquement, tu vas dans une foire, ok, enfin, tu peux rencontrer des gens, etc., mais à aucun moment, enfin, c'est rare les fois où tu vas vraiment rencontrer des personnes avec lesquelles tu veux faire des projets, enfin, sur lesquels vous vous entendez, vous vous dites, ah, tiens, on veut construire ça ensemble, etc. Donc, ça reste vraiment, le mot foire, c'est ça. Donc, vraiment, c'est vendre, et puis peut-être que quelqu'un va connaître ton travail. Mais, là, par exemple, je suis contente parce que je sais qu'à la rentrée, il y a une exposition à laquelle je participe et qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est un ami qui fait ça, qui s'appelle Juliette Drouard, qui fait une exposition qui s'appelle... Donc la deuxième session, parce que la première, c'était l'année dernière, s'appelle « Des sexes et des femmes ». C'est au 59 Rivoli, et cette année, c'est, le thème, c'est « Sortir de l'hétérosexualité ». Donc il y a pas mal d'artistes. Et l'idée vraiment, c'est aussi de réfléchir chacun et chacune à sa manière, de aussi dans le cadre du jeu, en fait, de questionner en fait un sujet qu'on questionne presque jamais. C'est quoi l'hétérosexualité? Et comment on en sort, et donc de jouer de ces codes-là, parce qu'on a toujours tendance à dire, en fait, on va parler de des choses en fait qui sont entre guillemets pas dans les normes, c'est-à-dire on va parler d'être homosexuel, on va parler d'être racisé, et en fait on questionne pas les normes. Et moi, vu que ça va un peu avec le travail que je fais en ce moment, l'anti-savoir, et c'est quoi ces codes-là qu'on a envie de déconstruire, moi je trouve que c'est le genre de projet que j'aimerais de faire de plus en plus.
Comment est-ce que tu t'entends avec la scène parisienne lesbienne actuelle?
En vrai, quand moi je suis arrivée à Paris, je m'identifiais comme lesbienne, pas forcément comme queer. Du coup, j'allais à certaines soirées qui sont un peu connues, à Barbiturix, etc. Les bars aussi de lesbiennes. Et en fait, aujourd'hui, je m'identifie comme Gwyn, et c'est politique. C'est-à-dire que pour moi, le fait d'être lesbienne n'est pas forcément politisé. Être plutôt dans le cadre d'être LGBT, juste vivre ta sexualité en tant que lesbienne. Et pour moi, être queen, c'est être... moi, je pense que c'est beaucoup... Enfin, c'est extrêmement politique, parce que du coup, tu t'inscris dans un cadre militant, féministe. Et du coup, je traîne vraiment dans des milieux pareils, en fait. Donc, avec des personnes queer, trans, racisées ou pas. Mais en tout cas, le fait de m'identifier comme queen, c'est aussi de considérer que je suis un ensemble de choses. Et que je suis à la fois meuf, queen, racisée, tout ça, pour moi ça va ensemble, et ça je ne pensais pas quand j'étais lesbienne. Je sais pas si tu vois un peu la différence. Donc là dans la scène, je traîne, je vais principalement dans les militants, dans des festivals aussi, et par rapport à la scène lesbienne, je sors moins dans des soirées en vrai, parce que au bout d'un moment, ça me plaisait pas trop. Les personnes, j'avais vraiment plus d'échanges possibles avec certaines personnes sur des choses pour moi qui sont assez importantes. C'est-à-dire que dans ces lieux-là où au début je sortais, j'ai quand même eu pas mal de racisme. Mais à l'époque, je me rendais pas compte. Hein. Quand une meuf me dit que je m'appelle Aïcha, elle me dit c'est pas vrai, prouve-moi le mot à parler en arabe. Tu vois, et moi sur le coup, je me dis bon, elle est chelou quand même. Hein, et en fait, de plus en plus, je me rends compte que ces milieux-là ne m'arrangeaient pas, ou d'autres personnes qui disaient des propos complètement aberrants sur... principalement, en fait, c'était meuf cis blanche. Du coup, elles n'avaient pas conscience, en fait, de certaines choses. Et donc, je me sens beaucoup plus à l'aise dans des milieux queer que dans la scène mainstream lesbienne.
Est-ce que tu dirais que ce milieu est très, très endogame? Enfin, trop homogène, peut-être?
Je sais pas, parce que du coup, j'ai traîné pendant longtemps. Ouais, ça dépend. Après, il y a des grosses soirées aussi, parfois, où j'ai envie d'aller comme ça, mais je suis entourée aussi de personnes que je connais, donc, ouais. Mais je me suis rendu compte quand même de plus en plus que dans ces genres de soirées, il y avait très peu de personnes, en tout cas de personnes racisées. Et je me suis posé la question. Est-ce que c'est parce que la musique qui est mise n'est pas une bonne musique, et que du coup ça fait pas danser? Parce que moi je me suis posé cette question là j'étais à Marseille pour le festival Intersection, et il y avait principalement des personnes queer et racisées, et genre là je me suis dit mais putain, la musique était ouf, et j'en dansais à fond, ça faisait longtemps que j'avais pas dansé comme ça. Je me dis mais en fait ça manque à Paris, et en fait on se pose la question mais pourquoi dans des grosses soirées y a, entre guillemets queer ou autre, mais il n'y a pas de personnes racisées et tout ça. Il n'y a que d'électro, c'est chiant au bout d'un moment. Et en plus, il y a aussi beaucoup de gays cis blancs qui sont là et qui te font chier aussi. Parce qu'ils considèrent que c'est leur espace, que c'est eux qui doivent prendre l'espace, tout le truc. Et même dans d'autres soirées la ouette, c'est de plus en plus de mecs hétéros. Et en fait, c'est juste que t'as pas envie de... Ouais, je m'ai capté beaucoup avec PD ou hétéro, mais... Et c'est pas ça le problème, c'est que c'est des personnes qui... plein de milieux des PD, mais qui sont cool et qui sont conscientes de... qu'on bouffe pas l'espace. Et c'est pour ça que, là, dans ce festival, par exemple, je me suis sentie hyper à l'aise, on était hyper serrés, mais personne m'a fait chier de « je te rentre dedans » et tout. Ah là, ouais, toutes les 3 minutes, quelqu'un te rentre dedans, te pousse... Enfin, voilà. Après, c'était cool, j'ai fait plein de ouettes génialissimes, tu vois. C'est juste que là, maintenant, j'ai un peu... Parce que je sais pas si j'ai 30 ans ou pas, mais juste la ouette, c'est une belle époque, mais là j'ai plus trop, je suis plus trop chaude.
Et moi j'aimerais juste revenir sur le terme lesbienne. Mmh. En fait, on va dire de manière un peu générale, il y a ce mouvement qui veut remettre devant de la scène le mot lesbienne, même au niveau du référencement Google, quand on tape lesbienne, ben c'est des images pornographiques et tout ça. Et je trouve ça très intéressant que toi, justement, tu retournes complètement la volonté, on va dire, politique des associations LGBT. Mmh. Est-ce que toi, tu comprends cette volonté de mettre lesbienne, le mot lesbienne en avant parce qu'il est invisibilisé dans les articles, sur les internets, on va dire.
Oui, bon, dans l'absolu, c'est important de visibiliser des choses. Et le truc, c'est que je pense que l'utilisation d'un mot, tu ne peux vraiment difficilement la gérer du début à la fin. C'est-à-dire que si à un moment donné, c'est un mot qui est référencé sur X vidéo ou X hamster, ben en fait, ça va ressortir quand même. Tu ne vas pas changer de la politique du truc. Et après, c'est plutôt à toi de savoir comment utiliser ce mot. Donc typiquement, par exemple, le fait que Gwyn, contrairement à lesbienne, est une insulte, la plupart du temps, bah le fait de se réapproprier, pour moi, est politique. C'est-à-dire que quand quelqu'un dans la rue me dit Gwyn, moi je rigole, je fais bah oui. Enfin, c'est pas...
Oui, c'est moi.
C'est moi. Bien vu, bravo. Alors que c'est drôle, parce que du coup, quand on me dit par contre lesbienne, je fais... alors que oui, c'est... Mais oui, bon, c'est cool, ouais, de vouloir ramasser ça, sauf que je pense que c'est pas une question de mots, en fait, qui est référencé. Je pense qu'il y a d'autres formes de visibilité, en fait. C'est pas forcément que sur Google que ça va changer quelque chose. Je pense qu'on visite des personnes, des discours, des pensées, étudier plus d'artistes lesbiennes, d'écrivains lesbiennes, de parcours de meufs lesbiennes, parce que sinon, moi, toute ma scolarité aux Beaux-Arts, j'ai jamais su que toutes ces meufs-là, elles sont où, en fait. Alors qu'elles existent, elles ont fait beaucoup de trucs, mais on n'en parle pas parce qu'elles sont invisibilisées, parce qu'elles sont à la fois femmes et lesbiennes. Donc il faut commencer à faire des recherches, il faut les sortir. Donc je pense que le travail de visibilité des associations LGBT, ce serait plus de... Surtout, ce qui est aussi en train de se faire, c'est de créer des archives et de compléter ces archives et de se dire, je vois ça, par exemple, c'est hyper cool, donc la revue lesbienne, mais enfin, d'autres projets comme ça, vraiment, pour tous les âges, en fait, de se dire qu'en fait, à un moment donné, quand t'as 16 ans et que t'as aucun modèle, c'est cool de juste de faire une recherche. Et je sais qu'il y a plein de potes à moi, leur premier truc, enfin, en Tunisie, c'est de taper lesbienne plus Tunisie, tu vois, pour chercher où elles sont, tu vois. Donc oui, dans ce cas-là, oui, c'est vrai que c'est... Heureusement qu'il y a des forums et des trucs à l'époque. Même pour gay, c'est-à-dire que autant lesbienne, en fait, il est connoté, ça dépend de comment on envisage la chose aussi. Mais même gay, enfin, aujourd'hui, quand tu dis gay, c'est vraiment le truc de pinkwashing, c'est le gay mainstream, oui. C'est les mecs blancs qui ont tout l'espace pour eux, qui ont peut-être une. Il y a beaucoup ce truc-là de gay, que ça entend derrière. Alors que PD, en fait, c'est plein de mecs que je connais, qui s'identifient justement politiquement comme PD.
Enfin, je sais pas, quand tu me dis gay, j'imagine les mecs qui sont à la tête de tous les théâtres et les galeries d'art de Paris, tu vois. Et quand tu dis PD, tu t'imagines les mecs séropos qui sont en train de crever.
Ou
des mecs racisés gays. Ça renvoie pas du tout à la même chose. Et est-ce que toi, t'as des modèles aujourd'hui?
C'est le genre de question qui me bloque à chaque fois, parce que je suis sûre que juste après, en sortant d'ici, je vais me dire, mais oui, j'ai pas dit ça, oui, je vois cette personne. Ah oui. Xena la guerrière.
Ouais.
Un modèle, c'est juste que quand j'étais petite, c'était mon premier, je pense, la première personne. Je me suis dit, je veux être elle.
Voilà. Moi aussi.
Donc je regardais mes deux bouts de muscles dans le miroir. Je portais mon seul gilet en cuir.
Et en tant qu'artiste, tu te vois où et comment dans 10 ans?
Généralement, quand on pose cette question-là de comment tu te vois, moi quand j'étais petite et qu'on me disait comment tu te vois, même si je savais que j'aimais le dessin, etc., c'est toujours je me vois pêcheur au Mexique. C'est vraiment un truc qui revient, c'est très détaillé comme futur, c'est-à-dire j'imagine avec un jean retroussé un peu comme celui-là, tu vois, j'avance vers mon fantasme, avec un débardeur sur lequel il y a des taches d'huile. Et en fait, je pêche près d'un port au Mexique et j'ai un petit bar dans lequel je sers des sardines grillées. Voilà. Donc c'était un peu mon... depuis toute petite... Alors j'ai grandi au bord de la mer et tout ça, donc j'avais toujours ce fantasme de me dire, en fait, c'est que les hommes qui vont... très peu de femmes sont pêcheurs et partent à la mer. Et moi, j'ai toujours ce fantasme d'avoir mon bateau et de partir. Et puis, je suis une fille de la mer, donc c'est un truc qui me revient tout le temps. Et j'étais sédentaire, en tout cas, pendant assez longtemps. Donc je pense que je me vois plus en train de bouger. Mais c'est aussi quelque chose qui est un peu... qui a un rêve d'enfance d'être, enfin, d'être entre guillemets aventurière. C'est pour ça que je te parle un peu de, quand je te parle d'Indiana Jones, de Xena, c'est des choses vraiment qui sont en moi. Et je pense que c'est une... Je dis pas que je me verrai comme ça dans 10 ans. Ça se trouve, dans 10 ans, je sais pas, j'aurai un atelier à Marseille et je serai avec, enfin, avec des personnes que j'aime et je suis en train de bosser là-bas ou autre. Mais je pense qu'au fond de moi, il y a ce truc-là de... Dans 10 ans, je vais être en train de découvrir des endroits connus dans le monde. Voilà. Mais c'est un peu ce que je fais, du coup, dans mon travail. Parce que je pense que le fait de fantasmer sur des... Je pense que c'est ça, en fait, ce que j'aime, en fait, dans le dessin et dans le fait d'être artiste, c'est le fait de pouvoir fantasmer qui je veux être. Donc, à la fois, je fais des travaux en imaginant scientifique, donc je réinvente des formules, je fais des mélanges, ou alors je me réinvente archéologue, et du coup, je crée toute une fiction sur des objets retrouvés. Et je pense que c'est comme ça ma manière aussi de voyager et de réinventer toutes les choses que je peux faire.
Comment est-ce que tu t'entends avec ta sexualité ?
En fait, ma manière de déconstruire, je pense que ma manière de déconstruire les choses a commencé surtout par ma manière de déconstruire les relations amoureuses et sexuelles. Et le fait de réinventer c'est quoi être à deux, à trois, à plusieurs. Le fait de savoir partager, le fait de déconstruire la jalousie, le fait d'aimer voir l'autre avec d'autres personnes et surtout d'envisager vraiment les rapports dans un autre prisme que... l'hétéronormativité, je pense. Et ça, c'était extrêmement dur de déconstruire ça, parce qu'on l'a fait à deux aussi, et puis aussi avec d'autres personnes autour de moi, mais quand il n'y a pas de chemin de précis ou clair ou d'aucun modèle, ben en fait, du coup, tu tombes dans des trucs, tu réessayes, et en fait, je pense que quand tu te rends compte qu'au bout d'un moment, même si c'était très dur, tu arrives quand même et t'as fait un pas, tu te dis waouh, en fait, c'est genre trop bien. Et on peut y arriver, en fait, on peut inventer des choses. Et donc là, aujourd'hui, je me sens hyper bien avec ça. Et je sais que j'ai encore un chemin de construire encore des choses sur plein de trucs sur ma sexualité. Mais là où je suis maintenant, je kiffe.
Aïcha, aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de la force ?
Alors, ça va être un peu nunuche, mais j'ai envie de répondre à l'amour. Non, mais je pense l'amour, enfin, en général, que je reçois, que je donne, de voir aussi que tout ce que ça peut créer autour. Après, bien sûr, je peux vraiment... partir et pareil, toutes les choses qui me donnent la force, mais je pense c'est les rencontres aussi, des personnes qui te donnent à voir une partie de toi, en fait, que tu ne voyais pas, et du coup, juste avoir confiance sur certaines choses. Pendant longtemps, j'avais pas confiance en certaines choses en moi, je me sentais pas forte, forcément, mais le fait, je pense, de s'assumer, c'est pas un truc qui est automatique, et je pense que ça vient vraiment avec l'échange avec les autres. Et quand on voit des choses et que tu essaies de te comprendre, et je pense que le fait d'essayer de me comprendre, d'être un peu cool avec nous-mêmes aussi, de pas être tout le temps dur, parce qu'on nous apprend souvent à être dur avec nous-mêmes, à être dans la compétition, à persévérer, à être dans le... Et en fait, quand tu te rends compte que t'as des choses qui sont assez différentes et que t'as ton rythme pour faire les choses, et d'accepter ça, je pense que ça donne beaucoup de force. Voilà.
Donc la question de la fin, est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire?
En tant que quoi je vais me sentir majoritaire? C'est vraiment, enfin, ça me
dans un espace donné ou
à Marseille, à ton festival?
Tiens, parfait, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai. Mais en fait, c'est drôle parce que à un moment donné, dans ce festival, c'est vrai, à un moment donné je parlais avec quelqu'un et j'étais un peu pas triste, mais j'avais un petit truc qui m'avait un peu blessée. Et à un moment donné, on vient me voir, on me dit, mais en fait, là, c'est ton festival. Donc, en fait, c'est un endroit où il y a que des personnes, principalement des personnes queer et racisées. En fait, ça sert à rien de penser à d'autres choses ou d'autres trucs. Enfin, profite de ce truc-là. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu une sorte de, je fais un tour autour de moi, je me dis, en fait, ouais, je me sens, genre, en fait, je me sens hyper bien ici. Et j'ai pas envie de me prendre la tête sur un petit détail, sur un truc. Mais oui, clairement, là, je me suis vraiment sentie hyper bien. Je pense qu'il y a plus d'espace comme ça, mais quand il n'y en a pas, tu ne t'en rends pas compte forcément. Tu as l'impression d'être majoritaire dans une petite chose, de te dire, bah, en fait, oui, il y a une soirée de Gwyn, donc forcément, s'il y a une seule personne qui est hétéro dans la soirée, tu te sens majoritaire, et tu sens ce côté un peu puissant. Il y a aussi des lieux où je vais, et quand je me sens là-bas, c'est aussi, je me sens un peu chez moi, et je sens que c'est une sorte de grande famille. Donc c'est vraiment des bars militants, etc. Et quand je vois, donc du coup, quand il y a une personne qui va te faire chier dans ce genre de lieu, et ben en fait tu sais que s'il suffit qu'il touche une personne ou qu'il pousse une personne, en fait on a 25 qui sont avec toi et tout le monde est hyper solidaire. Donc là, dans ce lieu-là, je me sens un peu majoritaire.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Hep.
T'as noté dans ton agenda, le 7 septembre 2019, le festival Extimité, à la Cité Fertile? On t'attend, vas-y, écris. On a hâte de t'y voir et on est toujours disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, fait tourner à la famille, les amis, les adelfes. On t'attend, on t'adore et à très vite.
Et pour conclure en beauté cette première saison d'Extimité, on vous laisse savourer le délicieux morceau Mashoug de la diva iranienne Gouche.
تو نه بارونی نه شن باد، تو نه مرهمی نه فریاد، تو نه خسته ای نه هم پا، تو نه از غیری نه از ما، تو نه بیرون نه درونی، تو نه ارزون نه گرونی، تو نه خاکی پوشش گنج، نه یه مهره روی شطرنج.
Et pour les oreilles attentives, vous avez sûrement dû reconnaître la musique originale de notre générique Tonabi par l'artiste Persian Empire.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.